Et donc comme ça, je te montre le site, mm-hmm. et tu navigues un peu, tu peux faire des commentaires. Et voilà. Donc ça, c'est... j'avais commencé... Tu me poseras des questions au fur et à mesure.
Okay. Ah, c'est impressionnant, t'as déjà 209 articles de disponibles. Ouais, t'as dû passer un peu de temps. C'est assez impressionnant parce que du coup, t'as vraiment l'impression de voir le display, la disposition du Wikipédia de base. Donc je pense que, bon bah, si t'arrives dessus, c'est que tu connais déjà le site, j'imagine, comment t'arrives dessus, mais si t'arrives dessus par hasard, à moins de regarder le logo... Ok, alors, la disposition. Accueil et discussion. Discussion, c'est comme un chat?
Le site est basé sur le même moteur logiciel que Wikipédia.
Ah oui, donc discussion des ajouts, des retraits...
En fait, les discussions, c'est quand différents contributeurs ont des commentaires à faire sur l'état actuel d'une page, bah, ils vont en page discussion en disant « je ne suis pas d'accord avec ce paragraphe » ou alors « ce paragraphe est inutile » ou alors « il faudrait insérer des informations » ou alors « telle source vient de sortir et ça pourrait apporter des éléments à l'article. »
Et ça, et tu comptes l'ouvrir ?
Pas du tout.
Ah ouais.
C'est-à-dire, c'est faire un Wikipédia, mais en prenant le contre-pied de Wikipédia, c'est ça. C'est-à-dire que je suis le seul contributeur, premier changement, après Wikipédia, il y a des millions de contributeurs et potentiellement des milliards, parce qu'on peut modifier sans être inscrit. Il n'y a pas de discussion, c'est moi, puisque je suis seul, on ne peut pas le modifier. Il y a plein de petits éléments qui font que c'est un wiki, mais un wiki différent, et c'est le seul wiki qui existe dans cette forme-là, finalement. Parce que tous les autres ont gardé la philosophie de l'ouverture. Alors que c'est justement contre l'ouverture et la démocratie à la Wikipédia que j'ai construit ce site.
Ouais, contre ça. Contre projet. Alors du coup, t'as commencé quand ?
D'abord, j'ai commencé sur le vrai, entre guillemets, Wikipédia en janvier 2018. J'ai fait ça dans mon coin, sans en parler à personne, un samedi après-midi, comme ça, en me disant que c'était une bonne idée de faire ce que d'autres ont déjà sur Wikipédia, à savoir des articles par livre. Donc j'ai commencé à améliorer la page biographie, et j'ai aussi créé une page par livre. Et comme à l'époque il avait déjà sorti les ports, c'était en 2018, il avait déjà sorti les ports, donc il y avait 30 livres, plus Patience, plus Les Éclats de Nab, plus L'Éternité, La Vérité, qui sont ces journaux papier et gazette virtuelle.
Donc il y avait déjà un article préexistant.
Il y avait déjà un article Marc-Edouard Nab, et il y avait un article sur l'enculé, il y avait un article sur... Voilà. Mais c'était très mince, et je crois qu'il y avait aussi au Régal des Vermines. C'était toujours très 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 mince. Et donc, j'ai amélioré ces articles, et j'en ai ajouté d'autres. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de septembre, le 12, il y a eu des petites modifications sur la page, je dis petites, avec des gros guillemets. Parce qu'il y a eu deux paragraphes qui ont été ajoutés par un mec qui s'appelle Erf Narf, qui est arrivé le 12 et qui est reparti le 12, c'est-à-dire il a fait un raid pendant, je crois que c'était 37 minutes, 34 minutes, et il a salopé la page en faisant des paragraphes sur accusation d'antisémitisme et apologie du terrorisme. Et forcément, là, c'était inacceptable, parce que quand on lit Nab, quand on connaît Nab, on sait qu'il a brassé des dizaines, des centaines de thèmes différents. Je veux dire, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas réduire ni à l'accusation d'antisémitisme, ni à l'apologie du terrorisme. Et le problème, c'est que c'était toujours vu du côté de ceux qui accusent Nab. Et c'était jamais vu du côté de Nab. Et donc là, à ce moment-là, ça a été énorme, parce que ça a été deux, trois semaines intense, où tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je défendais la page, et je m'en suis pris plein la gueule, et là, et à un moment donné, j'ai abandonné.
Et pourquoi est-ce que leurs commentaires avaient plus de poids que les tiens ?
Parce qu'ils étaient plus nombreux, et que moi, j'étais tout seul. Et c'est ça ce que j'aime pas dans Wikipédia, c'est ce côté démocratique, c'est-à-dire qu'un homme seul a toujours tort, même quand il a raison. Et des gens qui ont tort ensemble ont forcément raison, puisqu'ils arrivent à imposer leur méconnaissance des choses. Il y a plein de témoignages sur internet de gens qui honnêtement passionnés, qui honnêtement compétents, qui ont été absolument dégoûtés par la saloperie de la plupart des contributeurs.
Et donc, combien de temps après cet incident sur Wikipédia, est-ce que le projet de Wikinabia a vu...
Moi, j'avais aucune connaissance en web, aucune connaissance en programmation, rien. Et mais j'ai quand même réussi, j'ai un petit serveur à la maison, un NAS, comme on appelle ça, et j'ai quand même pu développer le site en local. Il est hors de question que ça soit en public, les gens voient, etc. Donc ça a été fait en local. Et je l'avais créé en octobre, et j'avais importé tous les articles pour les modifier. J'ai réécrit la bio, j'ai amélioré beaucoup de choses, j'ai corrigé beaucoup de choses, parce que c'était le texte brut de Wikipédia, donc ça renvoyait à des liens à Wikipédia. Et ensuite, mais il y avait un truc qui, moi, me gênait dans Wikinavia, c'était justement cette question des liens. Quand tu vas sur une page Wikipédia, tu as à chaque fois des liens vers d'autres pages. Et pour avoir ça sur Wikinavia, il fallait donc créer ces articles pour ensuite créer ces liens. Et donc ça a été pendant tout l'été, entre juin et août, tout un travail de recherche, d'écriture, pour faire à peu près plus de 150 articles sur des personnages et sur les inspirations, avec les liens avec Marc-Edouard Nabe, avec les citations, les portraits, quand il avait fait des portraits de personnalités qu'il admire, d'artistes qu'il admire. Et donc il y avait tout ce travail-là. Et finalement, il y a eu, on a créé, moi qui voulais créer, à nouveau je reprends la métaphore de la planète, je voulais créer une planète, j'ai créé un univers. Et un univers en perpétuelle expansion, puisque je peux rajouter des articles quand je veux. Il y a plein d'articles sur le site qui sont en rouge, plein de noms qui sont en rouge, et qui mèneront un jour à des articles fouillés et justes.
Donc là, au moins, c'est ça, une source de référence.
Ah ben, c'est une source de référence. Et quelle source de référence? Parce que je suis allé aux meilleures sources, c'est-à-dire les livres.
Comment est-ce que tu as développé tout cet univers d'articles?
Alors, déjà, la biographie a été intégralement réécrite. C'est-à-dire qu'il était hors de question de s'émanciper de Wikipédia et de garder Wikipédia. Qu'il fallait tout réécrire. Donc, après, sur les articles, sur les livres, ils étaient préexistants, déjà, si on veut. Mais ils ont été améliorés, grandement améliorés. Il y a des vidéos maintenant, il y a des images. Il n'y avait pas d'images sur Wikipédia. Là, j'ai rajouté des images sur Wikinavia. Il y a davantage d'informations. Sur, par exemple, le dernier livre, Au ras des pâquerettes, on a l'index. J'ai fait l'index et il est sur Wikinavia. Wikinavia, c'est la source de référence sur Marc-Edouard Nabe.
Est-ce que tu as repris des informations du contenu de tout ce qui a été aussi publié sur YouTube? Je sais qu'il y avait beaucoup de vidéos.
Ben, il y a un article, Éclat de Nabe, qui avait été lourdement caviardé par Wikipédia et qui revient intégralement sur Wikinavia et mis à jour jusqu'au dernier en date qui est sorti, dernier éclat qui est sorti le 1er juillet 2019.
Et ça fonctionne comme Wikipédia, tu passes d'un article à un autre. Attends, je regarde en même temps. Si on clique sur Nabe's News. C'est pratique d'avoir sur le côté l'onglet qui te permet justement de naviguer de manière encore plus simple que d'être sur la page pour passer d'un lien à un autre, parce que l'un des problèmes de Wikipédia, c'est que si tu as un sujet en tête en particulier, la navigation comme ça te fait un peu perdre le fil. Tu peux passer une heure en allant d'un sujet à l'autre sans avoir forcément un fil conducteur qui te permet de retourner au début. Et là, d'avoir biographie, bibliographie, chronologie, clichés, exposition, les personnages, c'est encore plus pratique parce que du coup tu peux toujours revenir à la source et ça se présente exactement comme Wikipédia. Donc c'est assez amusant d'avoir cet effet miroir et la présentation qui est juste identique mais avec un contenu qui est beaucoup plus détaillé, parce que c'est vrai que quand tu regardes la taille du curseur sur le côté, tu vois qu'il y a juste une quantité d'informations par page qui fait que c'est vraiment du détail.
Là, par exemple, tu es sur la page Nabe News, et si tu descends, ouais. Par exemple, la page Nabe News est très très légère sur Wikipédia. Je me demande même s'ils n'ont pas déjà supprimé. Je crois qu'ils l'ont supprimé d'ailleurs. Tu as l'origine, donc savoir pourquoi Nabe News a été créé, et ensuite les caractéristiques de la gazette, parce qu'ils appellent ça une gazette numérique. Donc, on a les montages photos, qui sont tant décriés pour leur côté soi-disant sale, pornographique, immonde, anti-artistique, tout ce qu'on veut. On a les montages photos, les rubriques, descends. Et ensuite, on a les sommaires détaillés avec à chaque fois la capture partielle, parce qu'il n'y a pas tout, la capture de la première page de Nabe News. Et comme tu vois, Nabe News est construit comme un journal avec le titre et ensuite les rubriques, etc. Voilà. Et à chaque fois, je prends le titre de chaque article et j'explique ce que c'est. Comme ça, le lecteur sait, peut-être qu'un jour ça disparaîtra d'Internet, et on aura une trace, on saura qu'il y a eu Nabe News pendant quelques années et qu'il y a eu des articles et ces articles parlaient de tel sujet et étaient écrits par telle personne. Et c'est ça qui est fort avec Nabe News, c'est qu'il y a une cinquantaine de rédacteurs.
Et ça t'envoie directement sur les numéros
Ah, il y a un lien, ouais. En dessous de chaque description, il y a, là tu vois,
okay,
lire le numéro 9.
Ça c'est un super travail de référence, hein. C'est des archives numériques en fait.
Exactement.
Page au hasard.
Page au hasard, c'est de l'aléatoire. C'est-à-dire, on appuyait là, par exemple, t'es tombé sur Jacques Berroyer.
Et là, par exemple, la page de Jackie Berrelier, ça correspond à ce que je disais tout à l'heure. On a la photo, une photo récente, c'était en 2013 à Cannes. On a lien avec Marc-Edouard Nab, à quel moment ils se rencontrent, etc. Une grosse citation dans le lien, et ensuite, donc là on a parlé du passé, là on parle de l'actualité, entre guillemets, actualité. Berrelier reste fidèle à Nab, le 20 août 2015, il assiste au lancement de Patience 2. Et ensuite, une autre en 2016, donc là on a deux vidéos. C'est impossible de mettre une vidéo dans Wikipédia. Nous on s'en fout, on peut le faire, on le fait. Et ensuite on a des citations. On a Berrelier sur Nab, et ensuite Nab sur Berrelier. Et ensuite l'intégration littéraire, c'est-à-dire dans quel livre de Marc-Edouard Nab apparaît Jackie Berrelier. Et après les notes et références pour les notes de bas de page.
Et la catégorie personnage.
Exactement. Et si tu vas sur la catégorie personnage, voilà, là on a 76 pages. Et dans les inspirations, on va avoir André Suarez, on va avoir Oum Kalsoum, on va avoir Rainer Werner Fassbinder. Donc là aussi, c'était aussi intéressant de mélanger tous les... Voilà, Sacha Guitry, Billie Holiday. C'est intéressant de mélanger tous les univers. C'est-à-dire qu'on a autant la peinture que la musique, que la littérature, que la politique. Voilà. Donc là, tu as les peintres, par exemple. Il y a Dali, Picasso, Soutine, Van Gogh. Et peut-être qu'il y en aura d'autres.
Et dans Cliché, qu'est-ce qu'on a?
Cliché, c'est pareil, on est peut-être sur un wiki, mais on ne fait pas Pédia. On fait quelque chose de beaucoup plus intéressant. Parce que justement, ça c'est une grande réponse. Là tu vois, tu parlais de l'ascenseur tout à l'heure, du curseur. Là il est minuscule parce qu'il y a énormément de texte. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cet article-là? On trouve trois clichés, trois grands clichés sur Nab. L'antisémitisme, l'apologie du terrorisme et la scatophilie. Voilà. Et à chaque fois, je fais un exposé du cliché. Et après, je dis tout ce qu'il y a sur le terrorisme, et pas seulement islamique, tout ce qu'il y a sur le terrorisme dans les livres de Nab. Et je remonte à son journal intime des années 80. Mmh. Et je repasse les années 80, 90, 2000, 2010.
Ça, je pense que c'est un des aspects les plus intéressants de votre Wikilabia, parce que à moins d'avoir cette connaissance sur l'auteur, c'est très très difficile de pouvoir naviguer l'ensemble de ce qui a été dit par les gens, ce qui est écrit dans les livres, et de voir ce que les proches ou les gens qui ont lu Nab pensent, parce que ben, c'est noyé sous une quantité d'informations qui est telle qu'à moins que quelqu'un vienne mettre de l'ordre dedans et repropose une lecture factuelle de ce qui s'est passé, c'est un débat qui est quasi inaccessible.
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a des gens qui pensent Nab sans avoir lu Nab. Et c'est ça qui est insupportable pour un lecteur de Nab.
Donc dans l'idée, ça serait de concurrencer la page Nab sur Wikipédia pour que au moins les personnes qui cherchent des informations sur Nab puissent avoir également accès à l'ensemble de ces informations.
Je suis sorti de la concurrence avec Wikipédia. Ah, moi j'en ai plus rien à foutre de Wikipédia, j'y foutrai plus jamais les pieds. Oui, je serai plus jamais un contributeur Wikipédia. Ah, c'est au moins proposer, non pas une concurrence, mais que les gens oublient d'aller sur ce site-là. C'est beaucoup de gens critiquent le monopole d'Amazon, le monopole de Google, les fameux GAFA. Mais on oublie toujours le W. On devrait rajouter le W. Parce qu'il y a un monopole exorbitant de l'information, de la connaissance et de la réputation détenue par Wikipédia.
Mais ça s'adresse donc autant aux gens qui ont lu et aiment Nab qu'aux gens qui s'intéressent au sujet. Ça sera facilement accessible sur le net.
Bien sûr.
Donc en termes de recherche, l'idée c'est que quand tu tapes Nab, tu puisses tomber dès le début sur Wikinabia.
Et dans l'idéal, oui. Moi j'ai des amis à qui je parlais de Nab, et qui un jour ne m'en ont pas parlé en disant ce qu'ils pensaient eux, mais qui ont consulté deux, trois petites choses sur Nab, et surtout ont lu le Wikipédia, et qui ont cru que je m'étais radicalisé, que je m'étais extrémisé, ce qui est totalement absurde. Les gens se font une idée des choses qu'ils ne connaissent pas en lisant des articles rédigés par des gens qui ne connaissent pas le sujet dont ils prétendent parler. C'est terrible. Ah ben c'est ça aujourd'hui Internet. C'est ça aujourd'hui, on a voulu Internet, on a voulu la démocratie, on a voulu un magnifique outil, c'est un très bel outil, il n'y a pas de problème, mais c'est mis dans la main de n'importe qui, et n'importe qui peut faire n'importe quoi sur n'importe quel sujet. C'est ça qui est terrible. Et donc, moi je propose autre chose, c'est-à-dire Wikinabia est là, la personne qui a envie de savoir ce qu'il a fait dans ses livres, ce qu'il a fait en peinture, ce qu'il a fait dans sa vie, il doit lire ça. Le problème, c'est que quand on essaie de dégonfler des mythes, on dit qu'on édulcore. Alors que non, on ne fait que restituer la justesse de la réalité. C'est tout.
Écoute, et exposition.
Donc là, sur l'article exposition, c'est à nouveau prendre le contre-pied de Wikipédia. Sur Wikipédia, on ne peut pas mettre d'images qui ne sont pas libres de droit. Mm. Là,
Là, j'ai fait le recensement de toutes les expositions. D'ailleurs, là, à chaque fois, je détaille. Il y a des vidéos et je détaille aussi les expositions. Là, par exemple, on va voir les 33 Christ. Ça s'appelle 33 Christ et on a les 33 Christ qui étaient exposés à l'époque.
Je peux juste regarder à quoi ça ressemble quand tu cliques. Si ça te fait comme sur Wikipédia, les agrandissements. Ouais.
Bien sûr.
Exactement le même visuel, c'est ça qui est marrant quand même. T'as même ton historique du fichier.
Exactement.
Dernier utilisateur. Voilà. Attends, je vais jeter un coup d'œil à chronologie aussi. Ouais. Ou par année. Donc là, j'imagine tout ce qui est les années 50, 60, 70, ça vient des bouquins. Non ?
Bah non, c'est des informations sur la naissance, sur le baptême de par exemple les années 60, il n'y a rien. Faudrait que j'ajoute deux, trois entrées. Ensuite, à partir des années 80, à partir du régal, là j'ai mis par année.
Okay.
Ça permet d'aérer.
Mais c'est des informations qui sont mentionnées dans les livres
et... Il y a des informations tirées des livres, il y a des informations qui sont de notoriété publique, il y a la publication des livres aussi. Voilà, donc ça permet aussi de se retrouver dans l'œuvre.
Donc ça, c'est toi qui l'as créé de base aussi, ouais. Ou il y avait déjà...
Ouais, il n'y avait pas de chronologie sur le premier site.
Ok.
Mais moi, j'adore la chronologie. C'est pour ça que j'en ai fait une sur, par exemple, la page de l'IB, parce que l'IB a tellement tendance à trafiquer les choses, à se faire passer pour un lanceur d'alerte. C'est marrant, c'est un lanceur d'alerte. Comme Irène Frachon, tu sais, Irène Frachon qui a dénoncé le Mediator de Servier, de Jacques Servier. Sauf que aujourd'hui, Salim Laibi dénonce Dieudonné, Nab et Soral, mais il ne dit pas à quel point il a été proche de ces gens-là. Mmh. On n'imagine pas une Irène Frachon dénoncer Jacques Servier après avoir trinqué et après avoir encouragé les gens à prendre du Mediator. Tu vois, ça serait dire allez-y, prenez du Mediator, et quelques années plus tard, parce qu'elle se fâche avec Servier, elle dit ah non, Mediator ça tue, Mediator, Servier c'est un pourri. Et il fait pareil avec Soral. Il y a plein de photos, tu le vois poser avec Soral, faire la quenelle avec Dieudonné, et aujourd'hui il devient un ennemi, sans jamais te dire pourquoi il les a aimés un jour.
Mm-mm. C'est super complet. Hein.
Ah ben, c'est super complet, et encore, on peut en rajouter.
Oui, et puis j'ai pas cliqué sur tous les liens, sur toutes les personnes. Donc derrière chaque lien se cache
ouais, c'est ça.
Des heures et des heures de travail.
L'autre fois, je me suis amusé à quantifier le truc, c'est 700 ou 800 heures de travail.
Ouais, ben, c'est énorme.
Voilà.
Je pense que la seule chose qui m'aurait découragée avec un tel projet, c'est combien de personnes... Est-ce que tout va être lu au moins une fois par quelqu'un? Parce que ça a l'air d'être tellement tentaculaire et puis tellement de micro-articles par-ci, par-là, qu'en termes d'audience, quand tu le fais pour être lu, c'est juste...
Moi, je le fais et puis après,
toi, ça vit propre. Toi, je sais que tu le fais pas dans l'attente de quelque chose. Toi, tu le fais parce que tu aimes bien que le travail existe et soit fait.
C'est une
manière d'organiser aussi toutes les connaissances que tu as sur un sujet, parce que si tu as besoin de te référer à quoi que ce soit, bah, tu as une chronologie, tu as des sources. C'est un outil.
Je fais ça pour les gens qui ont envie de passer outre et qui ont l'intelligence de passer outre Wikipédia. Ouais. Il y en a peu, des gens comme ça.
Il faut savoir que ça existe, hein, parce que...
Ah oui, ça existe. Heureusement que ça existe.
Ça, c'est un bel outil de marketing.
Marketing, je dirais pas. C'est pas du marketing.
Non, mais ça veut dire que ça te donne l'accès à l'information. Enfin, je veux dire, c'est marketing dans le sens où ça te donne de la matière première. Pas forcément au sens du marketing, c'est vendre un projet et tout. Mais c'est juste que ça augmente ta visibilité sur Internet. C'est plus dans ce sens-là. C'est avant, tu vas avoir NapNews, tu vas avoir Wikipédia. Et là, avoir ça en plus, ça donne de la profondeur à tout ce qui était auparavant sur Internet, parce que ça te les recasse dans un autre contexte. Et c'est plus dans ce sens-là, c'est avoir une présence sur Internet qui soit autre que juste les réseaux sociaux aussi. Parce que c'est assez limité. C'est plus dans ce sens-là, c'est plus tu organises ta présence Internet de quelque manière que ça soit, plus derrière tu peux peser dans le jeu, parce que c'est exactement ce que tu disais, quelqu'un qui va voir l'information qui était disponible avant, mais seulement si tu avais les livres ou si tu avais la connaissance que c'était replacé dans tel contexte, là tu pouvais l'utiliser, alors que du coup là ça t'augmente juste les possibilités que l'information telle que elle existe mais n'était pas disponible avant puisse... ce qui est vraiment bien fait aussi avec le site, c'est que Wikipédia, par exemple, ça va fonctionner comme des pages indépendantes. Tu pourrais t'attendre à tomber sur, je sais pas, une biographie du groupe de télé, enfin, plus d'informations sur le groupe de musique complètement de manière indépendante à NAB plutôt que de tomber sur les liens avec NAB, la cite. Enfin, là, c'est vraiment NAB le point central de l'article. Ah oui, et Monk. Oui, mais c'est pas comme ça que Wikipédia fonctionne. Donc
oui, c'est vrai que tu pourrais t'attendre. Parce que quand tu vas sur la page de Thelonious Monk, tu t'attends à avoir des informations sur Monk.
Ouais, ouais.
Alors que là, c'est sur Wikinabia, donc c'est tout, le sous-titre, c'est tout sur Markedor NAB. Donc il y a des liens avec Markedor NAB. En revanche.
Ça fait une vraie plus-value.
En revanche, il y a des personnages, des inspirations plutôt, qui eux n'ont pas leur page Wikipédia et qui mériteraient peut-être de l'avoir. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur fait leur page Wikipédia. Par exemple, on a François Rilhac, qui est un pianiste. Si tu vas sur la page, on monte.
Je te laisse naviguer.
Non, personne. Parce que c'est un personnage, il l'a connu. C'est un ami. Et là, pendant François Rilhac, on a une brève biographie de François Rilhac. Et qui n'a pas forcément à voir avec NAB, là, pour le coup. Donc on a, il découvre le jazz à 10 ans, Fats Waller à 12 ans, qu'il reproduit à l'oreille. Donc on a des petites informations, c'est petit. Mais au moins, on a François Rilhac. On a même une vidéo de Rilhac, seul au piano. Il n'a pas sa page Wikipédia, alors que c'est un pianiste extraordinaire. Si tu vas sur l'arme à la vidéo, c'est des vidéos YouTube. Tu le vois jouer. Ensuite, tu as la description. Donc là, c'est le lien avec Markedor NAB. Ils se connaissent depuis la fin des années 70 et il se suicide, Rilhac, en septembre 92. Et donc, on a après un paragraphe d'Alain Zanini qui est sorti en 2002, donc il parle de ce suicide. C'est un passage très, très émouvant d'ailleurs.
Beau travail.